France Culture.
Le journal est signé Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Quentin, bonsoir à toutes et à tous. Au lendemain du sommet de Londres où les alliés de l'Ukraine ont affiché leur unité, un débat sans vote est organisé à l'Assemblée nationale sur la situation en Ukraine et sur la sécurité en Europe. Antoine Maret est en direct du Palais Bourbon. Un appel à boycotter les marques américaines prend de l'ampleur en Europe du Nord, relayé par des citoyens choqués par la nouvelle posture des États-Unis. Explication de Louise Baudet. En Syrie, un comité d'experts est chargé de rédiger un projet de déclaration constitutionnelle pour construire un état de droit durant la phase de transition. Analyse de Marie-Pierre Véraud. Et puis la fonte des glaces de l'Antarctique pourrait avoir de graves conséquences qu'une nouvelle étude scientifique vient préciser. Juliette Pietraszewski nous en dira plus en fin de journal. Au lendemain d'un sommet inédit des alliés de l'Ukraine hier à Londres, plusieurs propositions sont sur la table pour aboutir à un cessez-le-feu en Ukraine. Les pays européens les examinent. Hier, Emmanuel Macron a évoqué la possibilité d'une trêve initiale d'un mois pouvant ouvrir la voie à des négociations de paix. Aujourd'hui, le sujet est abordé à l'Assemblée, il le sera au Sénat demain. François Bayrou a pris la parole devant les députés cet après-midi. Une déclaration suivie d'un débat avec la prise de parole des différents groupes politiques dans l'hémicycle. Bonsoir Antoine Maret.
Bonsoir Aurélie.
Le chef du gouvernement a d'abord salué le courage du président ukrainien face au président américain avant de parler, Antoine, de la sécurité européenne.
Effectivement, car même si cette déclaration a été décidée il y a plusieurs semaines, elle a été torpillée par ce qui s'est passé vendredi dernier. Donald Trump et son vice-président humiliant devant le monde entier Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche. Une scène largement commentée par François Bayrou devant un hémicycle clairsemé. Une scène sidérante, selon les mots du Premier ministre.
Le but était de faire plier par la menace le président ukrainien Volodymyr Zelensky pour qu'il se rende aux exigences de ses agresseurs. Le tout résumé en une phrase devant les caméras de la planète. Ou bien vous trouvez un accord avec Poutine, ou bien nous vous laissons tomber. Pour l'honneur de la responsabilité démocratique, pour l'honneur de l'Ukraine, et j'ose le dire pour l'honneur de l'Europe, le président Zelensky n'a pas plié.
Volodymyr Zelensky est longuement applaudi par les députés. Le Premier ministre évoque ensuite le détonateur de la crise actuelle, l'attaque de l'Ukraine par la Russie il y a 3 ans. Une attaque qui a fait, selon lui, basculer la symphonie des espoirs raisonnables.
Il n'y a plus de loi qui s'impose à tous. Et nous, Français et Européens, ne sommes pas armés pour un temps où la loi est tenue pour négligeable. C'est la fin de la loi du plus juste, c'est le règne de la loi du plus fort.
Pour le Premier ministre, l'entente, l'action en commun des pays de la famille européenne est la seule réponse possible. Et c'est au tour désormais des différents groupes de réagir au discours du Premier ministre. Marine Le Pen, qui s'exprime actuellement, exercice d'équilibriste pour la chef de file des députés RN, qui a évoqué l'héroïsme de l'Ukraine tout en refusant son adhésion à l'OTAN et à l'Union européenne. Selon elle, il ne peut y avoir d'issue militaire à ce conflit.
Antoine Maret en direct de l'Assemblée nationale avec Benjamin Troncin à la technique. 2 jours après son altercation avec Donald Trump à la Maison-Blanche, Volodymyr Zelensky maintient son refus de tout cesser le feu avec la Russie sans de sérieuses garanties de sécurité. Le président ukrainien qui est de plus en plus poussé vers la sortie par Washington et par Moscou. Le Kremlin assure qu'il faut, je cite, le forcer car il ne veut pas la paix. On retrouve Virginie Pironon à Kiev. Bonsoir Virginie.
Bonsoir.
Alors qu'en disent les Ukrainiens? Est-ce que les doutes s'expriment sur la légitimité du président Zelensky pour mener son pays vers la paix?
Alors rappelons d'abord qu'on est ici dans un pays toujours en guerre. On est parti ce matin de Lviv à l'ouest pour rejoindre la capitale, Kiev, et à 9h heure locale, le pays tout entier, et ça se passe comme ça tous les matins, le pays s'est figé, 1 minute de silence, voiture à l'arrêt sur les routes pour rendre hommage aux morts sur le front. Alors concernant la popularité de Volodymyr Zelensky, ce n'est pas noir ou blanc. Les Ukrainiens détestent se sentir manipulés et revendiquent leur droit à la critique. Après les attaques frontales de Donald Trump contre Zelensky, quand il l'avait qualifié de dictateur avec une cote de popularité de 4%, cette cote, justement la vraie, a atteint 57% en février. Et après l'épisode du bureau ovale, ce sont 63% des Ukrainiens qui disent lui accorder leur confiance, selon des sondages réalisés ici à Kiev par l'Institut international de sociologie. Mais ça ne veut pas dire que ces Ukrainiens ont voté ou voteraient pour lui. Il y a bel et bien des dissensions, mais j'ai échangé aujourd'hui avec de nombreuses personnes ici et la discussion se finit à peu près toujours de la même façon. Qu'on aime Volodymyr Zelensky ou pas, en ce moment on ne peut que le soutenir. Ce qu'on veut, c'est la paix et il a raison d'insister pour obtenir des garanties de sécurité. Lui demander de démissionner pour ça est, je cite, une question idiote. Nous n'avons pas besoin de leçons de démocratie.
Virginie Pironon, depuis la capitale ukrainienne, avec les moyens techniques de Martin Troadec. L'attitude agressive du président Trump, ses déclarations et décisions fracassantes, qu'il s'agisse de l'Ukraine, de Gaza ou de guerre commerciale, tout cela entraîne des réactions épidermiques mais aussi des ripostes en acte. De plus en plus de citoyens ont décidé de boycotter l'Amérique trumpiste en se passant des produits made in USA. Après le Canada et l'Amérique latine, le mouvement prend de l'ampleur en Europe du Nord. Dans les pays nordiques, des consommateurs s'organisent via des groupes Facebook pour mettre à l'index des produits et services. Et ce mouvement de boycott touche aussi le monde de l'entreprise, Louise Bédé.
Plus un litre de fuel au navire de l'US Navy tant que Trump restera au pouvoir. Annonce radicale d'une société pétrolière norvégienne numéro 1 du ravitaillement dans les ports du pays nordique. Altbach Bunkers a annoncé sa décision samedi au lendemain du clash Trump-Zelensky dans le bureau ovale et en mondiovision. Télé-réalité honteuse dénonce la compagnie qui dit agir au nom de la morale et rappelle avoir cessé de fournir les navires russes dès le début de l'invasion de l'Ukraine il y a 3 ans. Boycott dont le gouvernement norvégien se démarque, ça n'est pas notre position. Mais les opinions publiques scandinaves acquiescent. Des groupes Facebook rassemblant des dizaines de milliers d'abonnés appellent au boycott de Coca-Cola, Burger King, du ketchup Heinz ou de Netflix. Au Danemark, en réaction à la volonté trumpiste d'annexer le Groenland, mais aussi en Suède. Et si Facebook ne fait pas partie des services boycottés, un autre empire trumpiste, celui d'Elon Musk, est dans le viseur des consommateurs. Les ventes de Tesla s'effondrent en Europe du Nord, moins 44% en Suède sur 1 an. Et en Norvège, marché historique pour la marque, les ventes ont reculé de 70% en février.
Louise Baudet, pour l'instant pas le moindre signe d'inflexion de la part du gouvernement américain, qui semble intransigeant vis-à-vis de l'Europe, mais de plus en plus conciliant avec la Russie. Alors, aucun changement officiel, mais selon plusieurs médias américains et britanniques, l'administration américaine a retiré la Russie de sa liste de menaces pour la cybersécurité des États-Unis. Pourtant, ces dernières années, le pays, tout comme l'Union européenne, ont été particulièrement visés par des opérations de déstabilisation ou des attaques de hackers proches de Moscou. Bonsoir Adrien Toffolet.
Bonsoir.
Alors comment doit-on comprendre ce revirement ?
Alors le timing n'a certainement rien à hasard. Ce changement de diplomatie intervient donc au moment même où Washington essaye de contraindre Kiev à accepter un cessez-le-feu avec Moscou. Et pour Donald Trump, on l'a vu ces derniers jours, la sécurité des frontières européennes n'est pas un enjeu prioritaire, tout comme visiblement la cybersécurité européenne. Adrien Manier est docteur en sciences politiques, spécialiste des enjeux de cybersécurité.
Malheureusement, l'Europe aujourd'hui assiste à un Yalta 2.0, devrais-je dire. Les questions de défense et de sécurité de l'Europe sont mises à mal parce que les Américains ont leurs intérêts propres et qui maintenant ne coïncident pas avec les nôtres.
Alors s'il est difficile d'imaginer les États-Unis stopper toute surveillance des opérations cyber commanditées par le Kremlin, consignes ont tout de même été passées dans les différentes agences de cyberdéfense qui dépendent des départements de la sécurité intérieure, des affaires étrangères et de la défense, de concentrer les efforts sur les autres cybermenaces, notamment celles émanant de la Chine, adversaire militaire et économique numéro 1 des États-Unis pour le président américain.
Ça peut, si vous voulez, avoir un intérêt dissuasif parce que Trump a annoncé un sommet futur qu'il aimerait voir entre les États-Unis, la Russie et la Chine. Et donc, s'il arrive avec ce sommet, avec un accord venant des Russes en disant « bon ben voilà, on baisse les armes et nous sommes plus ou moins alliés, et bien maintenant nous sommes deux face à la Chine », peut-être qu'il espère tout simplement avoir une négociation plus ferme avec les Chinois en disant « eh bien désormais, nous avons fait la paix avec la Russie, donc tout mon outil militaire, y compris cyber, est rivé sur vous ».
Avec, selon Adrien Manier, des conséquences potentiellement importantes pour l'Europe qui subit autant les attaques de hackers russes. Invité de France Inter ce matin, le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a expliqué avoir un peu de mal à comprendre cette décision, car Washington a toujours été un allié de l'Union européenne sur les questions de cyberdéfense, du moins peut-être jusqu'au retour au pouvoir de Donald Trump.
Merci Adrien Toffolet. La transition politique se poursuit à petits pas en Syrie après la réunion de la conférence du dialogue national la semaine dernière. Le président par intérim, Ahmad al-Sharré, a désigné un comité d'experts qui a pour mission de rédiger les bases d'une nouvelle constitution, Marie-Pierre Véro.
Un comité de 7 experts, dont 2 femmes, désignées par un décret dominical, qui leur demande de poser les bases d'un état de droit durant cette période de transition. Des juristes spécialisés en droit constitutionnel ou international qui doivent s'inspirer des conclusions de la conférence du dialogue national. Cette dernière avait appelé au désarmement des groupes et milices. C'est encore loin d'être terminé. À la justice transitionnelle pour les dizaines, voire centaines de milliers de victimes de la barbarie du régime Assad, et avait mis l'accent sur les libertés individuelles et collectives. Justice, liberté, égalité sont au cœur des aspirations des Syriens. Les attentes sont fortes, mais le flou demeure sur la forme que pourrait prendre le nouvel État, centralisé, avec une dose de fédéralisme, et qui guidera la réflexion, qui tranchera. Ce sont des propositions qui ne seront donc pas a priori contraignante qu'attend Ahmed Al-Sharrey de la part du comité d'experts. Il n'a pas fixé de calendrier pour leur remise. Le manque de transparence est pointé par certains, tout comme la concentration des pouvoirs qui perdure. Ahmed Al-Sharrey dirige pour l'heure toujours le pays avec une poignée de fidèles. Un nouveau gouvernement plus inclusif devait entrer en fonction le 1er mars. Ce serait la première indication du degré d'ouverture des nouvelles autorités. Il se fait toujours attendre. La nomination de ce comité d'experts est un premier pas, mais elle ne saurait à elle seule calmer les impatiences.
Israël a mené des frappes dans la bande de Gaza et menace de lancer une opération baptisée « Plan de l'enfer ». Ce plan comprend aussi la suspension de l'aide humanitaire, l'arrêt de l'approvisionnement en électricité à Gaza et le déplacement vers le sud des populations tout juste rentrées dans le nord. Le plan prévoit également une reprise des combats à grande échelle. Alors que le climat est très lourd en Allemagne, où deux attaques à la voiture Bélier ont été commises depuis décembre, un nouveau drame est survenu aujourd'hui à Mannheim, dans l'ouest du pays. Une voiture a foncé dans la foule et fauché plusieurs personnes. Il y a deux morts et plusieurs blessés graves. Les victimes ont été fauchées alors qu'elles s'apprêtaient à participer au carnaval, Sébastien Baer.
D'après les témoins, l'homme circulait à très vive allure au volant de sa Ford noire et il s'est engagé sur plusieurs centaines de mètres dans une rue piétonne bordée de commerces. En cette mi-journée, la foule était dense. De nombreuses personnes s'étaient rassemblées pour participer au défilé costumé du carnaval du Rosenmontag, le lundi des roses. Plusieurs dizaines de personnes ont été fauchées, le bilan est lourd, 2 morts, 14 blessés, dont 2 adultes et 1 enfant, dans un état grave. Le conducteur a été interpellé une demi-heure après les faits. Selon le ministre de l'Intérieur du Bade-Württemberg, c'est un homme de 40 ans originaire de la région voisine de Rhénanie-Palatinat. Mannheim, 320 000 habitants, deuxième ville du Bade-Württemberg, a déjà été le théâtre en mai dernier d'une attaque au couteau qui a causé la mort d'un policier. Ces derniers mois, plusieurs attentats à la voiture Bélier ont été commis en Allemagne. 6 morts, 300 blessés sur le marché de Noël de Magdebourg, 2 morts à Munich le mois dernier. Cette série d'attaques a ébranlé le pays à tel point que la sécurité intérieure et l'immigration sont devenus les principaux sujets de la campagne des législatives qui ont eu lieu il y a 8 jours.
Sébastien Baer, correspondant de France Culture en Allemagne, pas de mobile politique à ce stade, donc selon la police. L'Union européenne fait une nouvelle concession dans le domaine de l'écologie. À la demande des industriels de l'automobile pour qui elle prépare un plan de soutien, la Commission accepte d'adoucir les sanctions prévues contre les constructeurs qui ne remplissent pas les objectifs d'émissions de CO2. La Commission européenne défend, Fabien Cazot, un principe de réalité.
Alors qu'elle s'apprête à annoncer un plan de soutien à la filière automobile européenne, la Commission ne voulait pas envoyer de signaux contradictoires face à des constructeurs qui avaient fait de l'assouplissement des règles sur le dioxyde de carbone une revendication majeure. Sur fond de concurrence féroce des voitures électriques chinoises, de droits de douane que Donald Trump s'apprête à relever aux États-Unis ou encore de marché européen en berne, la Commission explique avoir voulu introduire plus de souplesse dans son système de sanctions qui sont maintenus, mais qui seront calculés en 2027 sur la base des émissions moyennes enregistrées entre 2025 et 2027, et non pas seulement cette année. Cela permettra aux constructeurs qui ne sont pas dans les clous dès 2025 de se rattraper en 26 et 27. Ce nouveau calcul ne pénalise pas les bons élèves qui rempliront dès cette année leurs objectifs d'émissions de CO2 par kilomètre sur leur véhicule, et il permettra à l'Union européenne de tenir bon sur ses objectifs de décarbonation, assure-t-elle, en introduisant simplement un peu plus de souplesse dans la manière de les atteindre.
Fabien Cazot à Bruxelles. Il y a désormais une voie réservée au covoiturage sur le périphérique parisien. C'est une première étape de la transformation en boulevard urbain de l'espace le plus pollué de la capitale et un héritage des Jeux Olympiques porté par Anne Hidalgo. Une décision contestée à droite et critiquée par de nombreux habitués du périphérique qui redoutent un regain d'embouteillage. Ça risque effectivement d'être le cas si les habitudes ne changent pas. Rappelons qu'aujourd'hui, 80% des usagers du périph' sont autosolistes, comme on dit. Mais l'objectif, c'est justement que les comportements évoluent et il y a tout de même une poussée du covoiturage en France. Qu'est-ce qui est fait pour le favoriser, Laura Dulieu ?
En France, c'est surtout le covoiturage domicile-travail qui est encouragé, avec notamment le forfait mobilité pour les entreprises du secteur privé. Elles peuvent rembourser jusqu'à 800 euros à leurs employés qui covoiturent. C'est exonéré de charges sociales pour les employeurs et d'impôts sur le revenu pour les employés. Côté public, l'État a lancé en 2023 un grand plan covoiturage jusqu'en 2027, avec notamment une prime de 100 euros pour les conducteurs qui se mettent à covoiturer, versée progressivement par les plateformes de covoiturage. Des mesures ensuite à l'échelle locale. À chaque euro dépensé par une collectivité pour encourager le covoiturage, l'État versera 1 euro lui aussi. Sont aussi prévus 50 millions d'euros dans le cadre du Fonds vert, toujours pour les collectivités, pour financer par exemple des aires ou des lignes de covoiturage. Alors plusieurs villes s'en sont emparées, à La Rochelle, Lille ou Nantes par exemple, ou dans la métropole de Lyon qui a elle aussi ouvert des voies réservées au covoiturage. Tout cela va dans le bon sens selon Laura Foglia, consultante en mobilité bas carbone, mais il faut désormais lever les derniers freins.
Quand on met en place une politique de covoiturage, il y a des gens qui veulent bien conduire les autres, mais il y a relativement peu de gens qui veulent covoiturer avec d'autres personnes, parce qu'ils ont peur de ne pas pouvoir rentrer, en fait. Donc, le fait de lever des freins, c'est plus important que l'incitation financière, puisque de fait, l'incitation financière, vous l'avez de toute façon si vous partagez un trajet. Après, ce sera aussi la contrainte qu'on va mettre sur l'utilisation de la voiture tout seul, qui va permettre le passage à l'échelle.
Un passage à l'échelle dont on est encore loin. Selon le dernier baromètre de Vinci Autoroute, près de 86% des conducteurs sont seuls en voiture aux heures de pointe, un chiffre en hausse de près de 3% sur un an.
Les 16 et 17 février dernier, deux députés La France Insoumise avaient adressé à la Cour de justice de la République deux signalements mettant en cause le Premier ministre au sujet du lycée catholique Notre-Dame de Bétarame. Ils dénonçaient l'inaction de François Bayrou face aux accusations de violence et agression sexuelle au sein de l'établissement quand il était ministre de l'Éducation. Réponse aujourd'hui de la CJR, aucune infraction relevant de la compétence de la Cour de justice de la République ne paraît susceptible d'être caractérisée. À qui attribuer la responsabilité de l'affaire Bétarame ? C'est le thème de Question du soir avec Quentin Lafay à partir de 18h20. Le lancement d'Ariane 6 est reporté. La fusée devait décoller de Kourou en Guyane pour son premier vol commercial avec un satellite militaire. Mission hautement symbolique pour l'Europe dans ce contexte actuel du changement de cap des États-Unis. Mais Ariane Espace annonce une anomalie au sol. Le lancement n'aura donc pas lieu aujourd'hui. On le sait, les océans sont essentiels en tant que régulateurs du climat et puits de carbone. Or, une nouvelle étude scientifique publiée dans la revue Environmental Research Letters fait des constats préoccupants. Avec la fonte des glaces de l'Antarctique, le courant circumpolaire antarctique, le plus fort courant océanique de la planète, pourrait ralentir d'environ 20% si le scénario dit à forte émission se confirmait, c'est-à-dire si les émissions de combustibles fossiles augmentaient au cours des 25 prochaines années. Bonsoir Juliette Pietraszewski.
Bonsoir Aurélie.
Dans cette hypothèse, donc, les conséquences seraient nombreuses.
Oui Aurélie, l'océan est extrêmement complexe et finement équilibré, a déclaré l'un des scientifiques de l'université de Melbourne qui a travaillé sur cette étude. Pour la mener à bien, les chercheurs ont d'abord utilisé un des superordinateurs d'Australie pour modéliser la façon dont la fonte des glaces pourrait modifier ce fameux courant circumpolaire antarctique qui est presque deux fois plus gros que le Gulf Stream. Or, selon la modélisation, avec la fonte des calottes glaciaires, de grande quantité d'eau douce serait déversée au sud du courant à haute latitude. La teneur en sel de l'océan serait modifiée et la circulation de l'eau froide entre la surface et les profondeurs serait beaucoup plus difficile. Ce changement du courant pourrait alors être associé à un affaiblissement des capacités de l'océan à agir en tant que puits de carbone et avoir de nombreuses conséquences comme un réchauffement planétaire accéléré. Julien Le Sommer est océanographe physicien au CNRS à l'Institut de géosciences de l'environnement à Grenoble.
L'océan, il change constamment des gaz, dont du CO2 avec l'atmosphère. Donc il y a des régions dans lesquelles l'océan, il va plutôt avoir tendance à envoyer du CO2 vers l'atmosphère, d'autres où il a tendance à capter du CO2. Et le bilan net à l'échelle globale, c'est un bilan qui va donc retirer du carbone de l'atmosphère. C'est très sensible à des changements de température, à des changements de courant, de position des courants. Et donc être capable de comprendre ces changements, c'est quelque chose qui est vraiment clé pour être capable d'anticiper l'évolution du stock de CO2 dans l'atmosphère et donc la trajectoire de réchauffement de la planète.
Et pour cet océanographe français, comme pour les scientifiques qui ont mené cette nouvelle étude, des modélisations supplémentaires sont encouragées pour comprendre au mieux ce courant autour de l'Antarctique et ses enjeux climatiques.
Merci Juliette. Demain, le temps sera ensoleillé au nord, mais nuageux sur un grand quart sud-ouest. Les gelées resteront fréquentes sur une bonne moitié est de l'Hexagone. Les maximales atteindront 11 à 16 degrés sur la moitié nord, 13 à 18 au sud.